Chapitre 4. Toutes les dames champieux. Monsieur Liu Menet, seul de son sexe, seul de sa mentalité, en face des trois dames champieux, s'exhorta intérieurement à avoir du tact, beaucoup de tact. Il commença par poser son chapeau sur une petite pagode d'ivoire que feu Monsieur Louis Champieux avait rapportée d'un voyage. Madame Sébastien se leva, prit délicatement le chapeau et le porta à l'autre extrémité du salon, regardant autour d'elle d'un air incertain, comme si ce chapeau de feutre noir et à large bord fût un objet suspect, capable de faire des dégâts autour de lui. « Quand vous aviez commis une légère méprise, Madame Sébastien ne vous le laissait point ignorer. »« Madame Clotilde tient beaucoup à cette pagode, » fit-elle d'un ton discret en revenant. Monsieur Liu Menet considéra la pagode qu'il n'avait pas vue, et aussitôt, mentalement, il envoya l'officieuse personne à... pas à tous les diables, non, évidemment non, mais à une destination synonyme. Au coin de la large embrasure qu'encadraient des rideaux de damas vermousse doublés de brun rouille, tout ce salon était dans les teintes fumeuses, chocolateuses ou boueuses qui, sous prétexte d'art, sévirent pendant la période 1870 à 1880. Madame Clotilde occupait un fauteuil profond et sa table à ouvrage lui faisait vis-à-vis car elle était de ces personnes vertueuses que les emblèmes du travail accompagnent partout. Vêtue d'une robe d'intérieur violet foncé, élégante et sévère, et dont les dentelles en cascade étaient retenues par une barre de petits brillants, ses cheveux gris et frisés à la reine Alexandra, recouverts d'une guipure blanche qui caressait et adoucissait le contour maigre des tempes, le creux des joues, les tendons saillants du cou et du menton, un coussin sous les pieds, un sous la nuque et sur les genoux un ouvrage de crochet, Madame Clotilde avait trouvé, comme dans toutes les occasions de sa vie, le costume du rôle. Son rôle étant ce matin celui d'une dame qui a souffert d'un tapage nocturne et qui reçoit avec dignité les condoléances qu'elle mérite. Madame Clotilde Champieux avait une figure froide et sans charme, mais correcte et que l'âge avait affinée en la pâlissant. En ce moment, les joues blanches venaient de se teindre d'un rouge fugitif mais violent, d'un rouge outragé. Car la veuve de Louis Champieux vibrait d'indignation secrète chaque fois que sa bru prenait la liberté de l'appeler Madame Clotilde, et c'était souvent, c'était même toujours, de préférence devant témoin. Il semblait vraiment qu'une veuve n'eût plus le droit de porter le nom de son mari, que son veuvage la mit en marge de la famille et de la société. Dans ces occasions, Madame Veuve Champieux pensait au testament de son mari, et cette pensée la remontait à l'égal d'une gorgée d'oxygène. « Bonjour, monsieur le pasteur, » dit-elle, lui tendant sa main ornée d'une opale, car Louis Champieux, s'il avait économisé les appointements d'une femme de charge, s'était toujours montré généreux en cadeau. « C'est bien à vous de venir me voir sitôt après mon message. » « Pourquoi déranger Monsieur Liu Menet ?» fit Madame Sébastien qui ne savait point se taire. « Mon mari serait venu tout de suite. »« Non, ce que maman est gaffeuse !» pensait Myriel, accoudée sur un guéridon, les jambes croisées, un peu renversées en arrière, dans l'attitude où l'on fume une cigarette. Le pasteur avait bien besoin de savoir que papa n'a pas été appelé. Myriel était blonde, maigrichonne et pointue. Elle se trouvait très distinguée. Intelligente et vulgaire, elle pouvait aspirer à tout. Mais son adresse était continuellement dépolarisée, si l'on peut dire, par l'adresse de sa mère, analogue mais à contrefin, tout comme deux électricités semblables se neutralisent. Myriel, qui n'avait pas un joli teint, se poudrait discrètement. Sa mère aurait bien voulu en faire autant, mais elle n'osait pas. Un peu coupe rosée, le nez grand et très avancé, en gouvernail de navire, ses cheveux bruns ondulaient si régulièrement que les deux bandeaux avaient l'air d'une bordure faite au crochet, Madame Sébastien se couvrait de jais, en broderie et en pendeloque. Elle cliquetait à chaque mouvement, si bien que le pensionnaire de la cure, ce pandard, l'avait surnommé le serpent à sonnette. Madame Sébastien avait du jais sur sa capote, une haute et bruissante aigrette, du jais sur sa mantille, des grelots, des guirlandes, des pampilles, du jais saupoudré, et Madame Sébastien était probablement la seule personne qui, à notre époque, trouva moyen d'avoir des bottines à boutons brodées de jais à la pointe. Quand elle était en grande armure de visite, les yeux s'écorchaient à la regarder et l'on n'osait songer à ce que devait être son contact. « Vous êtes donc au courant ?» fit-elle en se tournant vers le pasteur qui venait de s'asseoir. « On vous a raconté ?» Entre 2 et 3 heures, Madame Clotilde a été réveillée par une voix sinistre qui contrefaisait les aboiements d'un chien et on a frappé des coups 3 par 3. « Je n'ai jamais dit que ce fût 3 par 3 », interrompit sa belle-mère. « C'est pourtant ce qu'on dit dans le village. On ne parle pas d'autre chose que de cette tentative d'effraction nocturne. » « Il n'y a pas eu tentative d'effraction, on n'a rien brisé, rien ouvert, » fit encore Madame Clotilde d'un air impatienté. « Et je me demande qui a répandu l'histoire. Il était bien convenu entre Rosanne et moi que personne n'en saurait rien. Je n'attendais aucune visite, » ajouta-t-elle en appuyant un peu, « sinon celle de M. Lioumenet, à qui je voulais demander conseil. » Madame Sébastien eut un haussement d'épaule imperceptible qui fit bruire tout son jet. Cette armature trahissait ses émotions. « Je serais accouru plus tôt, mais j'étais sorti quand Roseanne est venue, » dit le pasteur. « Elle n'a trouvé que ma femme. » Il s'arrêta, comprenant un peu tard qu'il avait dit précisément ce qu'il ne fallait pas dire. On savait maintenant par quel canal l'histoire s'était répandue. Il y eut un petit silence embarrassé. En tout cas, fit Madame Sébastien, se précipitant dans la brèche, si on a déjà bavardé, on bavardera encore davantage. C'est inévitable. Moi, je vois le doigt de Dieu dans cette affaire. Monsieur Lioumenet dressa l'oreille. Le doigt de Dieu? Comment? Pourquoi? Fit-il avec sévérité. C'est une indication claire. Grand-maman est trop seule ici, avec 2 femmes seulement pour la garder, dans cette immense maison vide. C'est ce que j'étais en train de lui exposer quand vous êtes entré, monsieur Lioumenet, et je suis sûre que vous allez dire comme moi. De 2 choses l'une, ou bien il faut que Sébastien s'installe au rez-de-chaussée avec sa famille, ou bien que Roseanne se marie et qu'il y ait ainsi un homme à tout événement. C'est exactement ce que M. Mestru me disait tout à l'heure, fit M. Lioumenet imprudemment. De quoi se mêle M. Mestru? Dit avec vivacité Mme Clotilde, dont les joues blanches se colorèrent. Il trouve donc aussi que nous devrions vivre auprès de grand-maman, s'exclama en même temps Mme Sébastien. Cela ne m'étonne pas, c'est un homme de sens. Pardon, mesdames, pardon, il n'est pas question de cela. « Monsieur Mestru dit seulement qu'à son avis, Roseanne devrait se marier, » fit le pasteur, très ennuyé de s'être fourré dans un buisson d'épines. « Tiens, Monsieur Mestru pense que Roseanne devrait se marier, » répéta Myriel, se penchant davantage en arrière et balançant son pied chaussé d'une bottine blanche sous la batiste à jour de la jupe. « Il me semble que nous disposons bien aisément de Roseanne, » dit Madame Clotilde avec quelque raideur. La vieille pendule Louis XV, dont le vernis Martin miroitait sur la boiserie, tinta les 3/4. Madame Clotilde regarda sa bru qui ne broncha pas, et Myriel eut tout à coup l'attitude d'une petite fille très sage qui ne se permettrait jamais de rappeler à sa mère que l'heure de prendre congé est arrivée. « Je n'aurai plus une minute de tranquillité, » dit Madame Sébastien. « Toutes les nuits, je rêverai qu'on vous cambriole, qu'on vous... » Avant qu'elle eût prononcé un mot plus épouvantable, Madame Louis Champieu étendit sa main blanche. « Rassurez-vous, dit-elle, je vais m'absenter. »« Pour longtemps ?» Ce mot fut dit trop promptement, fut chargé de trop de signification. « Pour 2 mois, moins 1 jour, » répliqua nettement Madame Clotilde. Jamais parole, aussi révélatrice de ses soupçons intimes, ne lui avait échappé. Et ces dernières phrases s'étaient échangées vite, comme brille l'éclair de 2 épées. M. Lioumenet en demeura ébahi et sans voix. Un homme n'aime jamais à intervenir quand 2 dames croisent le fer. Il se leva. « Je m'oublie, dit-il, j'oublie l'heure de votre dîner et du mien, quoique le mien n'ait que peu d'importance. » « Le mien n'en a pas davantage, » fit Madame Champieu troublée. Oh, comment donc ? Au contraire, dit Sabru, un peu haletante du coup droit qu'elle avait reçu. Vous devez avoir besoin de vous soutenir. Partez-vous déjà cet après-midi, grand-maman ? À qui vous adressez-vous ? Demanda la veuve, tout à fait hors de ses gonds. Je ne suis la grand-maman de personne que je sache. Ah, par exemple, voilà qui n'est pas gentil, s'écria Myriel en riant. Mais c'était fait, la parenté était désavouée, la façade en carton des apparences était renversée, tout croulait. Faut-il que ta pauvre grand-mère soit énervée ? Fit Madame Sébastien en s'adressant à sa fille. Et pour un simple tapage à ses volets, que serait-ce si... Une chose sûre, c'est que je vais vous envoyer le brigadier de gendarmerie. D'abord, il dressera procès-verbal pour que l'affaire soit noire sur blanc. Ensuite, il postera ici un homme pour la nuit. Laissez-moi pourvoir à ma propre sûreté, dit Madame Clotilde qui se ressaisissait. Je prendrai des mesures, certainement. La pendule tinta 12 coups. On entendit un léger bruit derrière la porte. Rose-Anne apparut, portant un plateau, car Madame Champieu prenait ses repas dans son petit salon quand elle était seule. « Rose-Anne, ma chère, dit la veuve, figure-toi qu'on trouve que tu devrais te marier pour que j'aie un gardien. »« Grand-maman devient folle, pensa Myriel, elle qui se tient si bien à l'ordinaire. »« Ah, vraiment ! » fit Rose-Anne qui, ayant posé son plateau, lissait des deux mains sur un guéridon une petite nappe satinée. « C'est vous, Madame Sébastien, qui avez cette idée ?»« Moi, pas du tout !» répondit cette dame dont le jet s'entrechoqua, tinta, vibra, en une dénégation irritée. « Il y a quelque chose de beaucoup plus simple à faire. Je ne demande que le rez-de-chaussée, les 5 pièces, et pars à la cuisine. » « Il y a des années que mon mari le désire pour votre sécurité, ma pauvre belle-mère, si seule ici, loin de tout secours. »« Eh bien moi, fit Myriel d'un ton léger, je vote plutôt pour que Rose-Anne se marie. D'abord, elle doit le désirer, comme toutes les jeunes filles. Ensuite, cela arrangerait tout. »« Cela arrangerait certainement bien des choses, fit Rose-Anne avec son petit sourire. »
« Vous reverrai-je avant mon départ, monsieur le pasteur ?»
demanda Madame Clotilde, congédiant ses visiteurs de l'air officiel qu'elle savait prendre. « Non, je n'ose y compter. Si j'apprenais quelque chose, si l'enquête qu'on va faire avait quelques résultats, alors je m'empresserai, dit monsieur Loumenet. Et on la mènera rondement, cette enquête, je vous le garantis, déclara Madame Sébastien avec un nouveau frémissement de ses pampilles. Pensez qu'il y a sur le territoire de la commune des malandrins, des apaches, capables d'effrayer une femme âgée. Je n'ai pas eu si peur que ça, je vous assure, et je ne suis pas encore décrépite, prononça Madame Clotilde avec une certaine aspérité. À chaque pas, jusqu'à la porte du salon, les escarmouches s'engageaient de nouveau, chaque mot rallumait une mine cachée. « Je trouve aussi, pour ma part, que le mauvais sujet doit être puni, et j'espère qu'il le sera, » dit Rose-Anne en regardant Madame Sébastien avec une insistance qui parut impolie à cette dame. « Puis-je vous aider à vos emballages, grand-maman ?» demanda Myriel d'un ton amical. « Merci, ma petite, ne te dérange pas. Où faudra-t-il vous écrire, grand-maman ?»« Je vous enverrai mon adresse quand je serai fixée. » Il n'y avait décidément rien à faire qu'à s'en aller. Sur le perron, Madame Sébastien Champieux s'arrêta, considéra pendant une minute la terrasse bien tenue, sous ses platanes taillées, les 2 corbeilles de géranium écarlate qu'un jardinier du voisinage entretenait, les belles colonnes de pierre blanche qui formaient un péristyle à la porte d'entrée et un support au balcon, cet air majestueux que donnent à une maison les lignes simples et l'espace alentour. Elle se retourna pour regarder les hautes fenêtres du rez-de-chaussée avec leurs cadres de pierre cintrés dans le haut et leurs croisillons peints en blanc. « Tant de places perdues » murmura-t-elle. Elle se voyait royalement sur cette terrasse, y faisant dresser la table du goûter, recevant la femme du pasteur, cette petite bavarde qui faisait si bien circuler les nouvelles. Des voitures monteraient l'avenue, On saluerait en premier lieu Madame Sébastien et l'on verrait enfin que le château appartenait aux Champieux, non à de vagues sécherets. Ces jouissances enivrantes, couronnes de sa vie, elle les souhaitait avec plus de fureur, de haine, de flamme, de complot, que le prétendant royal, exilé en Angleterre ou en Allemagne, ne souhaite le trône de ses pairs. En elle, dans le sein de cette femme plutôt médiocre et un peu sotte, c'était un embrasement, une rage de conquête, un élan de tout l'être vers le bien convoité, un vouloir acharné, digne d'Alexandre ou de Napoléon. Les mots manquaient, le geste était mesquin, le but méprisable, l'ardeur était la même. Cependant, le pasteur et Myriel avaient fait quelques pas en avant. La porte de la maison s'ouvrit derrière Madame Sébastien, toujours immobile et qui tressaillit. Roseanne était près d'elle, sur le perron, et lui tendait un petit paquet mince, oblong, enveloppé de papier blanc et correctement noué d'une ficelle. « Mettez-le dans votre poche, » dit la jeune fille à demi-voix. « Ne l'ouvrez que lorsque vous serez rentrée chez vous, en famille. » Elle appuya sur ces deux mots « en famille ». Puis elle disparut dans le vestibule et la haute porte se referma tout doucement. « Un petit cadeau de ma belle-mère, sans doute. Elle ne désirait point me le remettre devant le pasteur, » songea Madame Sébastien. Dans tout le trajet jusqu'à la place de l'église, elle ne cessa de catéchiser ce pauvre monsieur Lumenet. Vous devriez prendre notre parti, dire à ma belle-mère que sa conduite est absurde, qu'on l'assassinera une de ces nuits. Vous devriez montrer votre opinion. Vous n'osez rien dire, vous ménagez la chèvre et le chou. Votre chèvre et votre chou me sont parfaitement indifférents, dit enfin monsieur Lumenet vexé. « Et il reste à savoir si ce ne sera pas le chou qui mangera la chèvre. » Il savait que cette phrase n'avait aucun sens, mais que, venant de lui, elle ne laisserait pas que d'asticoter Madame Sébastien. « Encore une chose, » dit Myriel, d'un petit ton tout uni. « Quel mari voyez-vous pour Roseanne ?»« On parle de Laurent Mestru, » fit Monsieur Lumenet, dont les bévues étaient parfois des audaces, et les audaces souvent des bévues. « Laurent Mestru ?» répéta Myriel d'une voix douce. « Laurent Mestru ? Eh bien non, je ne le vois pas, concierge de grand-maman. » Et ce simple mot montra au pasteur des abîmes ouverts devant ses pieds. Si on allait dire à Élie Mestru, se déguenillait orgueilleux comme Lucifer, on dénature si vite une phrase au village. Si on allait lui dire que le pasteur, son ami, avait proposé Laurent comme concierge du château, s'en était fait alors d'une vieille amitié. Madame Dupommier et Roseanne ne sont pas des concierges, dit-il avec une énergie désespérée. Ce sont des amis, d'humbles amis utiles, des dames de compagnie. Myriel eut un petit éclat de rire. Ah, monsieur le pasteur, dit-elle, c'est pousser un peu loin la charité chrétienne. Des dames de bonne famille, persista monsieur Lumenet. « Il n'y a que deux familles à Fontfraîche, » dit Myriel en se redressant, « les Champieux et les Mestru. » Ici, le pasteur eut une révélation.